Je suis honoré de commémorer l'importance historique nationale d'Olivier le Jeune, dont les expériences en tant que première personne soumise à l'esclavage d'ascendance africaine au début du Canada illustrent les luttes des Canadiens noirs. C'est par ces mots que Stephen Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a justifié la désignation d'Olivier le Jeune au titre de personnage d'importance historique nationale le 10 mai 2022. Premier noir soumis à l'esclavage en Nouvelle-France au début du XVIIe siècle, la vie d'Olivier le Jeune reste emblématique dans le récit historique canadien puisqu'elle donne à voir un aperçu du vécu des personnes soumises à l'esclavage, déshumanisées et dépouillées de leur identité en Nouvelle-France. Déjà reconnu personnage historique au Québec en 2020, Olivier le Jeune a eu un parcours difficile dans sa vie depuis sa naissance à Madagascar, selon les archives, jusqu'à sa mort le 10 mai 1654 à l'âge de 30 ans en Nouvelle-France, aujourd'hui appelée Québec. Cette reconnaissance d'Olivier le Jeune est une initiative et un projet porté par Aline Diaye, plus connue par son nom d'artiste Webster, avec qui j'ai échangé et qui livre ici ses premiers sentiments.
Je suis très content parce que pour moi, je crois qu'on doit investir toutes les sphères de la société quand on parle de cette représentativité pour l'histoire afro-québécoise, afro-canadienne, la présence africaine et afro-descendante ici. Et une de ces sphères-là, c'est la sphère patrimoniale. Et donc, parce qu'il y a une présence plusieurs fois centenaire de personnes afro-descendantes et africaines ici. Et donc, c'est un peu ce que j'ai voulu faire en faisant reconnaître Olivier le Jeune comme personnage historique par le fédéral. Il a été, il y a 2 ans, par le provincial aussi. Et donc, pour moi, c'est de pouvoir montrer qu'il y a cette présence-là. Et une fois que ces gens sont classés comme personnages d'importance historique, ben c'est plus facile après pour utiliser leur nom pour la toponymie, donner des noms d'écoles, des noms de rues, des noms de parcs, etc.
Qu'est-ce que cela représente concrètement, personnage d'importance historique? Voilà une autre des questions que j'ai posées à Webster.
Au niveau provincial ainsi qu'au niveau fédéral, il y a des banques de noms, si on peut dire, de personnes, de lieux, d'événements qui sont reconnus comme ayant eu une importance pour l'histoire, pour la fondation finalement de nos sociétés, quel que soit leur rôle. Et donc, ce n'est pas toujours parce que la personne est une première XY qui va être reconnue comme ayant une importance historique. Et donc, au début, c'est ce qu'on disait, non, mais ce n'est pas parce que c'est le premier Africain ici ou la première personne à servir qu'elle devrait recevoir la dénomination de personnage historique d'importance nationale. Mais pour moi, ce que je disais, c'est que de par sa seule présence, il démontre une présence plusieurs fois centenaire. Donc, cette histoire-là, donc il incarne cette histoire-là, il incarne cette présence et il incarne aussi l'esclavage ici. C'est-à-dire, c'est une manière aussi de pouvoir parler de l'esclavage qui a eu lieu au Québec et au Canada et ainsi de l'ancrer dans nos schèmes patrimoniaux. Et donc, c'est pour moi, c'est un peu l'argument qui a fait que j'ai pu monter le dossier et l'envoyer d'abord au provincial, ensuite au fédéral. Et après sa dénomination au provincial, il y a une plaque qui a été posée sur son lieu d'habitation par la Ville de Québec en 2021, le 10 mai 2021. Et donc, le fait qu'il soit reconnu comme tel a permis de faciliter l'érection de la stèle commémorative. Et il y en a une qui viendra avec la dénomination fédérale aussi. Pour moi, l'objectif, c'est de démontrer la pluralité de notre passé et ainsi la pluralité de notre présent. Et souvent, à cette époque où on a des gouvernements, où on a des partis politiques qui ont une vision très passéiste, de notre identité, une identité homogène, qu'elle soit canadienne-française blanche, canadienne-anglophone blanche, et qui exclut toute cette haute Canada-là qui, comme je dis, qui est présente depuis des siècles. Et donc, ce travail en histoire, c'est un peu de démontrer ces éléments-là. Toutefois, je suis très conscient que quand, admettons, Olivier le Jeune est nommé comme personnage historique d'importance nationale, bon, c'est bien. Ce n'est pas ça qui va arrêter le profilage racial. C'est pas ça qui va permettre aux gens de trouver des emplois, d'avoir une meilleure mobilité sociale, que leur CV soit pas jeté à la poubelle parce que leur nom n'est pas à consonance eurodescendante. Donc, je suis conscient des limites de l'histoire. Toutefois, c'est le travail que je décide de porter parce que je crois que ça doit être fait aussi. Et donc, on doit militer, on doit travailler, comme je le disais, dans toutes les sphères de la société. Mais il y a quelque chose qui doit être fait en histoire aussi. Et donc, c'est la tâche à laquelle je me suis attelé.
Olivier Lejeune est-il le premier Afro-Canadien francophone qui rentre dans cette espèce de panthéon, de patrimoine national?
Je pense que oui, dans la sphère francophone. En tout cas, pour ce qui est du Québec, c'est le premier à être connu comme tel. Au sein du fédéral, je ne sais pas, mais je ne serais pas surpris, en fait, que ce soit le premier à être connu. Parce que les gens qui sont en Nouvelle-Écosse, qui sont en Ontario, en Colombie-Britannique, sont très actifs aussi au niveau de la reconnaissance patrimoniale. Et la filiation est plus claire aussi. C'est-à-dire que si tu vas, admettons, à Halifax, il y a une communauté afro-néo-écossaise qui est là depuis longtemps. Et les gens sont très au courant de cette histoire-là. Et donc, c'est plus facile après ça de pouvoir travailler pour établir des reconnaissances patrimoniales. Ici, c'est plus difficile en fait. Et il y a surtout le fait que bon, le Québec, dans son statut particulier au Canada et en Amérique du Nord, tout est souvent subordonné à la dichotomie franco-anglo. Et on parle beaucoup moins du reste, on parle beaucoup moins de cette présence-là. Et bien sûr, je pourrais pas faire ce que je fais sans le travail des prédécesseurs. Je pense à Paul Brown, je pense à Dorothy Williams, je pense même à Marcel Trudel, je pense même à Jacques Vigée, puis à Louis-Hippolyte Lafontaine en 1859, qui ont écrit à ce propos. Et donc, c'est grâce aux travaux de toutes ces personnes, Frank Mackay aussi, qui a fait un travail extraordinaire, que finalement, moi, je peux continuer à faire mon bout de chemin. Mais c'est encore une histoire qui est extrêmement nichée au Québec, comparée à l'Ontario, comparée à la Nouvelle-Écosse notamment.
Alors, Webster et Olivier Lejeune, j'ai envie de dire le duo Webster-Olivier Lejeune, quelle est la prochaine étape? Parce qu'il y a eu la stèle, il y a eu aujourd'hui la désignation comme personnage d'importance historique nationale. Quelle serait la prochaine étape?
De travailler sur quelqu'un d'autre. Donc, Olivier Lejeune, il est reconnu au niveau municipal, provincial, fédéral. Il y a une plaque, une seconde qui s'en vient. Idéalement, j'aimerais pouvoir qu'il y ait un nom de rue à Québec. Il y a un nom de rue Olivier Lejeune à Montréal. J'aimerais qu'il puisse y en avoir une à Québec. Une école peut-être ou un parc, mais dès maintenant, j'aimerais me concentrer sur quelqu'un d'autre, très certainement une femme, peut-être Marie-Joseph Angélique. Encore une fois, il faut prouver son apport historique. Et donc, Angélique, je pense qu'on pourrait cadrer ça au niveau de la résistance à l'asservissement. Donc, il y aurait Marie-Joseph Angélique. Je pense aussi à Charlotte, qui a initié la fin de l'esclavage au Bas-Canada en 1798, à Montréal. Et donc, c'est vraiment de me pencher sur qui serait la candidate la plus apte à être reconnue à ces différents niveaux encore. Mais c'est un travail de longue haleine. C'est pour le provincial, j'ai déposé le dossier en 2018. Olivier Lejeune a été reconnu en 2020. Après qu'il soit reconnu, je me suis dit, bon, mais ça me donne une bonne base pour continuer. Et donc, c'est là que j'ai rempli le dossier pour le fédéral. Et donc, ça a pris 4 ans finalement depuis que j'ai mis en branle ce projet-là. Et donc, j'imagine que d'ici peut-être 2026-27, on pourrait avoir une autre personne, si elles sont acceptées, parce qu'après ça, il faut que les personnes soient acceptées aussi. Et donc, de fil en aiguille, j'aimerais pouvoir faire reconnaître de plus en plus de personnes pour les faire entrer dans notre banque patrimoniale et au provincial et au fédéral.
Évidemment, connu pour être quelqu'un de très engagé, de très impliqué, j'ai voulu comprendre, j'ai voulu savoir qu'est-ce qui pouvait motiver Webster. Écoutons sa réponse.
Ben, je dirais que c'est le long chemin. C'est-à-dire que ma militance, ma lutte contre le racisme s'inscrit à travers la boucle historique, si je peux dire. C'est-à-dire que quand on pense à l'afro-expérience, hein, t'sais, l'histoire noire dans les Amériques, notre référent est toujours les États-Unis, en termes d'esclavage, en termes de militance. Et donc, il y a une certaine extériorité à notre vision de cette afro-expérience-là. Donc, on pense aux États-Unis, on pense à partout ailleurs, mais on ne pense pas au Québec et on ne pense pas au Canada. Donc, j'essaie de contribuer à développer des repères afro-québécois, afro-canadiens, pour qu'on comprenne que cette afro-expérience, elle est aussi québécoise, elle est aussi canadienne. Et donc, en développant ces repères, j'aimerais pouvoir contribuer à changer les mentalités. Et c'est une histoire que j'aurais aimé savoir quand j'étais jeune. C'est quand j'avais 10 ans, 12 ans, quand je me questionnais sur mon identité et ma place au Québec. C'est une histoire que j'aurais aimé connaître, que j'aurais aimé étudier. Et donc, j'essaie de faire ça aussi pour tous nos jeunes, pas seulement les jeunes afro-québécois, afro-canadiens, mais tous les jeunes qui puissent comprendre cette histoire-là, qui puissent comprendre la pluralité de notre identité et ainsi essayer de faire contrepoids au discours raciste, au discours xénophobe de notre gouvernement actuel au Québec et de toutes ces factions de notre société qui essaient de nous ramener ou du moins de nous amener vers une vision, comme je l'expliquais, une vision passéiste et raciste de notre identité.
Quand on fait ce type de travail, quand on a ce type d'implication, il est évident qu'on pense parfois, j'imagine qu'on pense parfois à la transmission. Qu'est-ce que Aline Diaye, qu'est-ce que Webster fait pour qu'il y ait d'autres après lui, pour qu'il y ait une suite?
Ben, ça, je ne réfléchis pas nécessairement à l'après-moi, c'est-à-dire que j'imagine que c'est la marche de la vie, tout simplement. C'est-à-dire que moi, j'ai bâti sur les épaules de quelqu'un. D'autres gens vont bâtir sur nos épaules. Je pense à Rito, je pense à Philippe, je pense à moi. Et donc, le travail qu'on fait, j'espère, pourra inspirer d'autres gens, comme moi, j'ai été inspiré aussi. Et bien sûr, je suis toujours ouvert à discuter, à donner des ressources, aussi partager des ressources. Donc, toute personne qui m'approche, je suis prêt à tout partager parce qu'effectivement, je crois qu'on a besoin de beaucoup de gens qui puissent porter ce flambeau-là. Mais il y a tellement d'autres flambeaux à porter aussi et qui, d'après moi, sont plus pressants aussi, c'est-à-dire de mettre de la pression sur nos services de police pour que le profilage cesse, de mettre la pression sur nos gouvernements, sur le gouvernement Legault pour qu'ils reconnaissent le racisme systémique, de mettre pression sur nos différentes organisations et entités qui, la pyramide de pouvoir est encore très homogène. Et donc, je crois qu'il y a des enjeux qui sont plus pressants. Et je respecte beaucoup le travail qui est fait de toute personne qui se jette dans la mêlée. Et donc, pour ma part, je fais mon petit bout de chemin et j'aime pouvoir penser que ce que je fais en histoire permet de donner une assise et une base conceptuelle aux personnes qui continuent à porter la lutte dans le présent.
Merci à vous, Webster. Merci à vous d'avoir trouvé le temps de nous parler, de parler un peu d'Olivier Lejeune et du fait qu'il ait été désigné personnage d'importance historique nationale, une initiative, je le rappelle encore, que vous avez portée.
Mais ça fait plaisir. Merci d'avoir pris le temps, puis merci de m'avoir reçu.
À des fins de rappel historique, la première mention d'esclaves noirs africains en Nouvelle-France concerne la vente d'un garçon originaire de Madagascar. En 1629, un enfant d'environ 6 ans est amené en Nouvelle-France à bord d'un navire britannique comme esclave de Sir David Kirk, commerçant et corsaire à la solde de Charles Ier, roi d'Angleterre. Il est ensuite vendu à un commis français nommé Olivier Le Baïf, puis remis à Guillaume Couillard. En 1633, le garçon est baptisé et reçoit le nom d'Olivier le Jeune. Il restera en Nouvelle-France tout le long de sa vie jusqu'à sa mort le 10 mai 1654. Mon nom est Cyril Ikoala.